Aujourd'hui, vous pensez plutôt, vous verrez pour quelle raison, enfin, peu importe. Alors, je crois que c'est un sujet qui a un intérêt de lui-même, mais qui a aussi un intérêt du point de vue de la société, puisque avec la crise des différents pays, ce qu'on appelle les crises, qui ne sont pas le Portugal, l'Irlande, on voit de nouveau renaître le débat à propos de l'Union monétaire, à propos de l'euro. Alors, vous avez des gens qui disent ce qui se passe est la preuve que c'était prématuré de faire l'euro. Je le dis d'ailleurs tout de suite, je n'étais pas défenseur de l'euro pour une raison que j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer tout à l'heure. Toujours dit qu'on met en cause le rôle de l'euro, où on dit qu'il serait souhaitable que certains pays quittent de l'euro, soit pour ne pas avoir le poids des pays qui sont à la traîne, soit pour faire des politiques différentes, par exemple. On évoque la possibilité qu'aurait la Grèce de faire une dévaluation si elle n'était pas partie de la zone euro. Donc, on dit bien souvent qu'en entrant dans une union monétaire, les pays se privent d'un instrument de politique économique, qui est l'instrument monétaire, ou bien de faire une politique monétaire autonome, ou bien de dévaluer. Alors, je voudrais évaluer ces différentes questions, et pour ça, faire un petit peu un retour en arrière vers la théorie, parce que je pense que c'est indispensable de comprendre quelles sont les analyses qui permettent d'évaluer la situation. Et je voudrais donc tout d'abord préciser quel rôle on peut donner à la politique monétaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la politique monétaire, et d'une manière générale, de l'instrument monétaire. Je voudrais ensuite évoquer là encore un problème très général, en amont de ce que qui pouvons être amenés à discuter, qui est le problème de l'intégration monétaire et de sa signification. Je passerai ensuite au problème du choix d'un système monétaire et de change. Je dirai quelques mots sur la crise actuelle de l'euro et je terminerai par évoquer les solutions pour le futur. Alors, quel rôle pour la politique monétaire? Les approches traditionnelles, que bien évidemment je récuse, sont des approches globales, macroéconomiques. Il y a bien évidemment la branche keynésienne. Je résume en quelques mots, je vais vous parler tout un développement de théorie économique. Qu'est-ce qui est caractéristique du point de vue du rôle de la monnaie dans le keynésianisme? Eh bien, dans la tradition keynésienne, l'expansion monétaire peut avoir un rôle de relance. Pour quelles raisons? Essentiellement parce que cette création monétaire implique une baisse du taux d'intérêt. La baisse de taux d'intérêt stimule l'investissement, mais l'investissement est apprécié non pas en tant que créateur de nouvelles richesses, de capacités de production, mais en tant tout simplement qu'élément de la demande globale. On dit, si l'investissement augmente, la demande globale augmente, et par conséquent, ceci accroît le revenu, crée la prospérité. Alors, je n'ai pas le temps d'évoquer pourquoi, à mes yeux, cette théorie est totalement fausse, ou peut-être en un mot, parce qu'il n'y a jamais de problème de demande, il n'y a jamais de problème de demande, il n'y a pas de demande sans offre. Et là encore, je voudrais me placer sous le parapluie d'un grand ancêtre qui est Jean-Baptiste Say, ce qu'on appelle la loi C, à savoir que l'offre crée sa propre demande. Et si vous placez à l'échelle du monde, eh bien évident que la demande globale, elle est égale à l'offre globale. D'ailleurs, on le voit, on devrait le voir dans la discussion de politique économique, quand on nous dit par exemple qu'il faut faire du déficit public, ça croit la demande globale. Le déficit, il doit être financé. Il est financé comment? Par l'impôt. C'est autant de pouvoir d'achat qui est retiré à ceux qui payent l'impôt. Par l'emprunt, c'est autant de ressources de financement qui sont retirées. Il n'y a pas de miracle, n'est-ce pas? C'est un jeu de mistigerie. On ne sait pas ces choses. Et donc le déficit public n'accroît absolument pas la demande globale. Ça, c'est la grande illusion keynésienne. Et si on pouvait définitivement mettre la théorie keynésienne à la poubelle, je serais vraiment très heureux. Bon, toujours est-il que, dans la tradition keynésienne, l'expansion monétaire, elle a un rôle de stimulation pour la raison que j'ai rappelée. Et je dois peut-être d'ailleurs rappeler aussi au passage qu'il y a quelque chose qui a eu un moment de gloire, qui continue d'ailleurs une large mesure, qui est très proche de la théorie keynésienne, qui est ce qu'on a appelé la courbe de Phillips. C'est l'idée qu'on peut arbitrer entre l'inflation et le chômage, et qu'en faisant de l'inflation, donc de la création monétaire, on peut diminuer le chômage. Là encore, il y aurait beaucoup à dire sur cette idée, qui est une idée d'ailleurs, c'est intéressant, qui est venue purement et simplement d'observations empiriques, sans qu'il y ait de théorie derrière, c'était rationalisé après. Et ceci a été complètement détruit, je crois, sur le plan théorique, par Milton Friedman, et j'en viens justement aux idées friedmaniennes, parce que lors de la crise récente, on a continuellement évoqué le débat entre keynésiens et monétaristes, comme s'il y avait qu'eux, et on a généralement dit dans la presse et ailleurs, on a généralement dit Keynes a gagné. Pourquoi je ne vois pas ce qui permet de vous dire, parce que Keynes n'a jamais véritablement expliqué les raisons d'une crise. Il a simplement dit, c'est du chômage, il faut augmenter le monde global. Chose qui est impossible, je viens de le rappeler. Donc, mettons une fois de plus la théorie keynésienne de côté. Alors, Milton Friedman, il a rappelé une chose importante, c'est que sur le long terme, la seule conséquence d'une création monétaire, c'était l'inflation. Parce que l'inflation n'est pas bonne. Elle n'est jamais bonne. Et dans le court terme, on peut, par la création monétaire, créer des illusions et obtenir effectivement ce qu'on constate avec la courbe de Phillips, à savoir une diminution du chômage. Mais simplement parce qu'on crée des illusions, on fait croire, par exemple, aux salariés, que leur salaire réel est plus élevé qu'il ne l'est réellement. N'est-ce pas ? Passons sur les explications. Toujours est-il qu'il y a certaines ambiguïtés chez Friedman. Fondamentalement, il a rappelé des choses correctes, à savoir que la création monétaire, sur le long terme, ne pouvait avoir comme conséquence que l'inflation. Et je crois que de ce point de vue-là, il a quand même été assez écouté des banques centrales depuis quelques décennies, même peut-être, sont un peu plus modérées dans la création monétaire, peut-être justement à cause des idées qui ont été véhiculées par Friedman. Mais il y a quelques ambiguïtés parce que, par exemple, Friedman a défendu l'idée que l'euro n'était pas possible, n'était pas la meilleure des solutions entre des pays qui n'avaient pas la même situation économique. Et il pensait que l'euro risquait d'éclater pour cette raison-là. Au point, je suis en désaccord avec lui, d'autant plus, je répète, que initialement, je n'étais pas particulièrement favorable à l'euro. Et puis, il est arrivé aussi de plaider en faveur d'une expansion monétaire, et c'est un petit peu ce que l'on voit aux États-Unis maintenant, mais en réalité, je crois que c'est parce qu'il avait en tête la situation de la Grande Dépression des années 30. Ce qui est évident dans la crise des années 30, c'est qu'on a eu une diminution beaucoup trop importante et imprévisible, et c'est ça qui est important, de la masse monétaire, de la sorte qu'il y a eu une chute des prix profonde. Et comme par exemple les contrats de salaire n'ont pas pu s'adapter rapidement à cette chute des prix, les entrepreneurs se sont trouvés bloqués entre des prix de vente sous l'IGC et des salaires qui restaient à peu près au même niveau. D'où évidemment les faillites, le chômage, etc. Et il est évident que lorsqu'il y a une baisse trop rapide, trop profonde et imprévisible de la quantité de monnaie, eh bien, il serait trop tard de revenir à la situation antérieure. Et je pense que Friedman avait toujours en tête cette idée-là lorsqu'il lui arrivait d'accepter une stimulation d'ordre monétaire, puisque par ailleurs, il a toujours expliqué que sur le long terme, la création monétaire ne pouvait avoir de conséquences que l'inflation. Alors, j'en viens au dernier volet de cette présentation, de ce rappel sur le rôle de la politique monétaire, le volet autrichien, qui est généralement oublié, mais qui me paraît fondamental. C'est sur ce volet que j'insiste dans mon livre, dont vous rappeliez le titre tout à l'heure. Les Autrichiens, ce qu'on appelle les Autrichiens, c'est-à-dire essentiellement du point de vue de la théorie de la conjoncture, de la théorie du cycle économique, et essentiellement Mises et Hayek, les Autrichiens, bien évidemment, ne nient absolument pas le rôle qui a été souligné par Friedman de la création monétaire sans inflation, mais ils soulignent que la chose peut-être la plus importante, ce sont les distorsions qui sont créées dans le système économique par la création monétaire. Pour quelle raison ? Parce que, à notre époque, il n'y a pas de création monétaire sans qu'il y ait simultanément distribution de crédits. Des crédits qui ne correspondent à rien, qui sont donc purement illusoires. Et dans mon livre, justement, j'explique que la crise est à la conjonction de la création monétaire, d'une part, de la politique monétaire, d'une part, et par ailleurs, de la politique fiscale, en particulier parce que je crois, sans que je prenne le temps de le démontrer, que la politique fiscale, dans la plupart des pays du monde, détruit l'incitation à épargner. Donc, il y a une insuffisance plupart dans le monde, en particulier dans un pays comme les États-Unis, heureusement, il y a quelques pays émergents comme la Chine, Singapour, qui ont des taux d'épargne absolument considérables, et c'est la raison pour laquelle ils ont une croissance qui est forte. Et ça me permet de rappeler au passage qu'il n'y a pas de croissance sans accumulation de capital, c'est-à-dire sans épargne. Et la grande erreur, là encore, du keynésianisme, c'est d'insister sur la consommation et de préconiser la relance par la consommation. C'est une absurdité. Il n'y a pas de croissance sans épargne, sans accumulation de capital. Toujours est-il que l'innovation existe, il y a donc une demande de financement pour des processus de production différents, et si l'épargne est relativement faible, eh bien, il faut prétendre trouver un relais. Et c'est ça la grande illusion qui est créée par les autorités monétaires. Elles créent de la monnaie, elles distribuent des crédits, c'est-à-dire qu'elles font comme si l'épargne était plus abondante qu'elle ne l'est en réalité. Alors, je n'ai pas le temps de discuter tout cela en détail, mais il y a une incohérence qui est introduite dans le système économique par cette création monétaire, puisque la structure entre épargne et consommation, qui est désirée par les consommateurs, qui désirent donc consommer beaucoup et épargner peu, ne correspond pas à ce qui est fait du point de vue du financement, puisqu'on distribue beaucoup plus de crédits qu'il n'existe véritablement d'épargne. Ce qui veut bien dire que la politique monétaire a essentiellement pour rôle de déstabiliser l'économie. Et c'est contraire, évidemment, aux idées qui sont habituelles concernant la nécessité d'une politique monétaire pour stabiliser. Et ce que les Autrichiens ont bien souligné, c'est que la conséquence de ceci, c'est de créer des distorsions dans les structures de prix, les structures de production. On encourage, par exemple, les investisseurs à faire des investissements qui, normalement, ne seront pas suffisamment rentables, mais comme l'expansion monétaire est évidemment possible en baissant les taux d'intérêt, et nous savons que les taux d'intérêt, par exemple, au début de deux siècles, ont été incroyablement faibles, eh bien, comme les taux d'intérêt sont très faibles, parfois même négatifs, les taux réels, eh bien, on est incité à investir pour n'importe quel investissement, à prendre trop de risques, etc. Je me souligne au passage, le taux d'intérêt, c'est le prix du temps. C'est donc un prix fondamental. Il concerne tout le monde. Et manipuler un prix aussi important que le prix du temps, c'est quelque chose de dramatique. Toute manipulation de prix est contestable. Nous savons bien que, par exemple, les politiques de blocage des loyers créent la pénurie de logements. Enfin, nous savons bien, les politiques ne le savent pas, parce qu'ils ont un horizon à court terme. Ils font de la démagogie. Les producteurs de démagogie, ils font croire que, aux gens que le logement peut être moins cher qu'il ne l'est. Bon, de même qu'on a fait croire pour le subprime. Enfin, bien. Mais nous savons que le taux d'intérêt, c'est un prix important. Nous savons que le blocage des loyers crée la pénurie. Eh bien, le fait d'imposer un taux d'intérêt qui est trop faible, eh bien, il crée évidemment des distorsions dans le système économique. C'est la cause majeure de la stabilité économique. La stabilité économique de notre époque, elle vient toujours d'une création monétaire excessive. Donc je voulais faire ce rappel en toile de fond, n'est-ce pas, avant d'avoir donné au problème de l'euro, mais je voudrais aussi parler en termes très généraux, comme je l'avais annoncé, de l'intégration monétaire. Il y a de ce point de vue-là des conclusions, pas seulement d'ailleurs pour l'intégration monétaire, mais pour l'intégration économique en général. Il y a, je crois, deux conceptions de l'intégration qui sont radicalement différentes. Il y a la conception dominante qui consiste à dire pour que des pays soient intégrés économiquement, eh bien, il faut harmoniser les conditions de production, il faut qu'il y ait un même environnement juridique, fiscal, éventuellement, tous les efforts d'harmonisation fiscale, etc., etc. On fait des politiques communes, il faut que tout le monde soit dans le même environnement. Et ça, ça me paraît être une erreur majeure. Pour ma part, je considère que l'intégration, à la limite, on pourrait la définir comme une situation de concurrence. Pourquoi une situation de concurrence? Lorsqu'il y a concurrence, chacun essaye de faire le mieux possible. Chaque producteur essaye de faire mieux que les autres. Et la conséquence de la concurrence, contrairement à la théorie traditionnelle de la concurrence pure et parfaite, qui prétend qu'il y a concurrence pure et parfaite quand il y a beaucoup de producteurs qui produisent exactement la même chose, dans les mêmes conditions, avec les mêmes prix, mais la vérité de la concurrence, c'est qu'elle incite les producteurs justement à se différencier. La concurrence a un grand mérite, c'est qu'elle incite les producteurs à se différencier. Et lorsqu'il y a concurrence sur des marchés, ça veut pas dire que les marchés ne sont pas intégrés. Qu'est-ce que ça veut dire que les marchés sont intégrés? Ça veut dire qu'ils fonctionnent de manière cohérente, comme un système cybernétique, si vous voulez, où il y a des allers-retours d'informations entre les différents éléments du système. Un système concurrentiel, c'est un système où il y a liberté d'entrée et où il y a ajustement progressif par circulation d'informations, par des allers-retours d'informations. Donc il y a une conception d'intégration qui me paraît être la seule correcte, qui consiste à dire l'intégration existe s'il y a liberté d'entrée sur le marché, quels que soient les environnements des gens. Et d'ailleurs, le grand mérite justement de la concurrence, c'est de permettre à des gens qui sont dans des environnements tout différents de se concurrencer, comme on dit. Quand je parle de ce problème, j'aime bien donner cet exemple, certains d'entre vous le connaissent bien. Nous avons en Europe des producteurs de tomates, par exemple, dans le sud de l'Europe, qui profitent des rayons gratuits du soleil. Et puis, vous en avez aussi dans le nord, qui eux utilisent le gaz naturel, en Hollande, par exemple. Et si on voulait appliquer l'idée dominante en Europe, ben on devrait dire, c'est pas juste qu'il y ait des gens qui aient l'énergie gratuite du soleil, ils sont dans des conditions de concurrence privilégiées, donc il faut leur imposer de couvrir leur plant de tomates pendant plusieurs heures par jour pour qu'ils aient les mêmes conditions d'ensoleillement qu'en Hollande. Alors, tout le monde considère que c'est d'absurdité, bien sûr, mais c'est tout aussi absurde de vouloir harmoniser la fiscalité, de vouloir harmoniser les réglementations, etc. C'est la même absurdité. Le problème, c'est que la concurrence, c'est un aiguillon pour innover, mais si elle est bonne pour les produits, elle est bonne aussi pour les fiscalités, pour la réglementation, etc. La concurrence fiscale est meilleure que l'harmonisation fiscale. Il faut expérimenter en espérant qu'on trouvera la meilleure solution. Donc, le fait d'avoir des règlements différents, des taxes différentes, n'empêche pas l'intégration économique, bien au contraire, n'est-ce pas ? Puisqu'une fois de plus, la concurrence, c'est comme le disait Hayek, c'est un processus de découverte. Donc, laissons également ce processus de découverte fonctionner pour tous les éléments de l'environnement. Et en particulier pour les monnaies. La différenciation des monnaies n'est pas un obstacle à l'intégration des marchés, à l'intégration des conditions économiques. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est pas qu'il y ait une monnaie unique en Europe, c'est un a priori qu'on a énoncé comme cela. Ce qui est important, c'est qu'on ait de bonnes monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne monnaie? J'y reviendrai tout à l'heure. Mais il n'y a aucune raison a priori pour dire qu'un espace intégré, comme on prétend que l'est l'Europe, pour dire qu'un espace intégré a besoin d'une monnaie unique. Aucune analyse économique sérieuse ne nous permet de dire. Alors comment justement aborder ce problème du choix d'un système monétaire et d'un régime de change. Alors, je voudrais encore vous rappeler quelles sont les approches traditionnelles de ce problème. Alors, il y a une série d'approches qui sont un peu superficielles, qui ne reposent pas véritablement sur de l'analyse économique, mais elles sont dominantes, donc il faut les rappeler. Et puis alors, il y a des approches qui se prétendent plus rigoureuses, plus théoriques, que je rappellerai rapidement, et puis je vous donnerai l'approche que, pour ma part, je privilégie. Quelles sont les approches traditionnelles de l'intégration monétaire? Elle consiste à dire que la création monétaire, la politique monétaire, sont des attributs de la souveraineté. Le motto habituel consiste à dire un pays, une monnaie, une banque centrale. Bon. Et par conséquent, dans cette optique, on considère qu'il est optimal que chaque pays ait sa monnaie, et le nombre optimal de monnaies dans le monde, c'est égal au nombre de pays, le nombre optimal de monnaies en Europe, c'est le nombre de pays en Europe. Comment l'appliquer précisément ce principe a priori, je répète, il n'y a pas de fondement théorique, mais il faut bien le rappeler, parce que c'est comme ça quand même, malgré toutes les décisions sont prises au niveau politique, puisque c'est au niveau politique qu'on a décidé l'euro, eh bien, ceux qui s'appellent eux-mêmes européens, moi d'ailleurs, sont des mauvais européens. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit l'histoire de l'Europe, l'Europe, c'est une histoire de la diversité. Ça n'a pas été l'histoire de l'harmonisation, n'est-ce pas? Regardez l'Europe du 17e ou du 18e siècle, c'était une multitude de petits pays, de villes franches, etc., avec des impôts différents, des réglementations différentes, des lois différentes, etc. C'est ça qui fait la richesse de l'Europe, c'est sa diversité. C'est pas son harmonisation. Confondons pas harmonisation et harmonie. Bon, toujours dit que ceux qui s'appellent européens, ils font donc un contresens majeur, et ils disent ceci: nous voulons faire de l'Europe un pays uni, et pour que ça soit un pays, il faut faire l'intégration monétaire sous la forme d'une monnaie unie. Avec une arrière-pensée d'ailleurs, parce qu'ils adoptent implicitement l'approche du type keynésien, ils disent, bon, si les pays ont une monnaie, les différents pays ont une monnaie commune, une monnaie unique plutôt, excusez-moi, ont une monnaie unique, ils se privent d'un instrument politique économique, je vais préciser, c'est à tort que l'on croit ça, mais on croit, les croyances ont une réalité, n'est-ce pas? Ils se privent d'un instrument de politique économique, et par conséquent, ils vont être obligés de coordonner leur politique économique, parce que sinon, il va apparaître des déséquilibres. Et donc, on va être sur la voie d'un gouvernement unique en Europe. On le voit très précisément, lorsque actuellement Trichet demande qu'il y ait un ministre des Finances européen, c'est la conséquence de ce type de raisonnement. On appelait l'union monétaire sous forme d'une monnaie unique. On prétend que cette zone euro ne fonctionne pas parfaitement parce qu'il n'y a pas de coordination des politiques économiques, des déficits publics, etc. Et donc, on essaye de s'assigner vers un gouvernement européen. Et donc, les gens qui sont en faveur de la construction d'une nation européenne, c'est évidemment totalement l'inverse de ce que je souhaite. Pour moi, la nation optimale, c'est celle dans laquelle la place du dôme est autonome. La rue Daniel Casanova, qui prend ça finalement, mais également, pourrait quand même accepter d'être libre. Ça c'est la vraie liberté. Donc, mais toujours que ceux qui s'appellent les Européens, ils veulent, eux, le Conseil, ils veulent un gouvernement central, rien de plus terrifiant, un gouvernement central d'un grand territoire. Et donc, ils ont bien vu qu'à cause des croyances dominantes d'inspiration keynésienne, en imposant l'union monétaire sous forme de monnaie unique, on pouvait aller vers la centralisation étatique. Alors, à l'inverse, vous avez ce qu'on appelle les souverainistes. Les souverainistes, ils adoptent exactement la même analyse sur le rôle de la monnaie. Mais eux, ils ne veulent pas de la nation européenne. Alors, ils sont contre l'euro, ou ils étaient contre l'euro, pour que l'on garde la souveraineté monétaire. Et puis, entre les deux, il y a des gens qui sont plutôt, disons, des Européens, et qui disent, c'est très bien l'union monétaire, mais il vaudrait mieux avoir l'union politique avant l'union monétaire. Bon, ce débat un peu stérile, je récuse évidemment toutes ces approches, et je suis évidemment en faveur d'une autre approche, celle que je développerai un petit peu par la suite, qui consiste à dire que, là encore, il faut expérimenter par la concurrence et voir comment les utilisateurs de monnaie choisissent, est-ce qu'ils veulent une seule monnaie unique en Europe ou est-ce qu'ils veulent une plus grande diversité. Donc je reviendrai sur ce problème tout à l'heure. Alors, ces approches traditionnelles mais assez politiques, n'est-ce pas, sont donc, comme je l'ai précisé, superficielles. Mais il y a des approches qui se veulent plus théoriques, et par exemple ce qui est connu sous le nom de théorie des zones monétaires optimales. Alors la théorie de la zone monétaire optimale, elle a été développée tout d'abord par quelqu'un pour lequel j'ai des points de vue, beaucoup de respect, Robert Mendel, qui a eu le prix Nobel d'économie. Bon, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour lui parce que j'étais ma thèse sur. À partir des articles qu'il avait écrits, c'est un esprit remarquable, mais quand même très marqué par les idées keynésiennes. Alors, je me suis évidemment, avec le temps, de plus en plus éloigné de ses positions, mais en plus, c'est quelqu'un qui, dans ce type d'approche, apportait quelque chose d'intéressant, tout au moins, et qui a apporté aussi beaucoup par ce qu'on appelle l'approche monétaire d'avance des paiements, qui, elle, est certainement beaucoup plus proche des théories monétaristes que la théorie des zones optimales. Alors, si je parle de la théorie des zones optimales, c'est que lorsqu'on a créé l'euro, ça m'a frappé que finalement, cette idée d'une zone monétaire optimale, elle était entrée un petit peu dans l'opinion publique, et on s'y référait, n'est-ce pas? Comment définir une zone monétaire optimale? Ben, pour ma part, je dirais, à partir de la littérature sur ce sujet, on peut définir dans la littérature une zone monétaire optimale comme une zone dans laquelle l'utilisation des instruments de politique économique peut être optimale. Alors, vous imaginez tout de suite mes réticences à l'égard de cette idée, parce que je crois qu'il n'y a pas d'usage optimal de la politique économique, des instruments de politique économique, parce que la seule chose que fait la politique économique, c'est de déstabiliser l'économie. Alors, l'optimalité du désordre me paraît être un petit peu contradictoire. Mais bon, prenons juste l'exemple justement initial de ce qui a été développé par Mendel. Mendel dit à peu près ceci. Il faut relier le problème de la monnaie et de la zone monétaire, savoir s'il vaut mieux que plusieurs pays soient et une seule monnaie ou pas, il faut le relier à une méthode d'ajustement qu'elle peut utiliser, qu'il peut utiliser. Imaginons, disait-il, qu'on ait un déplacement de demande, vous voyez que c'est très keynésien ça, un déplacement de demande important à l'égard des produits d'un pays. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour lui, l'un des critères importants, c'était la mobilité des facteurs de production. Si on suppose que les prix et les salaires sont rigides, et qu'il ne va pas y avoir d'ajustement facile par la flexibilité des prix et des salaires, l'ajustement va pouvoir se faire par la mobilité des facteurs de production qui quitteront le pays où la demande a diminué pour aller vers d'autres pays. Et dans ce cas-là, par conséquent, on peut avoir des taux de change fixes, ce sont les facteurs de production qui font l'ajustement. S'il n'y a pas de mobilité des facteurs de production, il vaut mieux avoir des taux de change flexibles, c'est-à-dire avoir plusieurs monnaies différentes pour les différents pays, parce que ça sera le seul moyen d'avoir un ajustement, par exemple, avec une dévaluation ou une révaluation dans certains pays. Alors, ceci me paraît quand même très contestable, parce que l'idée que tout d'un coup, conjoncturel, que tout d'un coup la demande qui s'adresse à tous les produits d'un pays puisse se déplacer et que dans tous les secteurs on ait exactement le même effet, ça me paraît purement rêveur. Une hypothèse purement imaginaire mais qui n'a aucune réalité. Autrement dit, la théorie des zones monétaires optimales, elle prend pour hypothèse un choc réel et elle recherche dans quelle mesure un instrument monétaire peut résoudre le problème. Mais je crois que c'est une erreur fondamentale. Pour résoudre un choc réel, il faut un instrument réel. Pour résoudre un choc monétaire, il faut un instrument monétaire. Et une fois de plus, ce qu'on constate à notre époque, c'est que les chocs sont d'origine monétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un choc? C'est un changement de grande dimension, n'est-ce pas? Or, à notre époque, nous n'avons pas de choc réel. Ça existait dans le passé, lorsqu'on avait des pays peu diversifiés qui dépendaient essentiellement de l'agriculture, si vous avez par exemple un incident climatique, eh bien voilà un choc réel. Et toute l'économie en souffre, il n'y a évidemment pas de solution monétaire qui puisse résoudre le problème. Il n'y a pas de solution du tout même. Mais à notre époque, il ne peut pas y avoir de choc réel comme cela parce que les économies sont diversifiées. Les seuls chocs que nous connaissions, ce sont les chocs monétaires. Avec peut-être aussi les chocs budgétaires, qui, eux, seraient peut-être des aspects réels, on aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Donc, la théorie, elle est mal adaptée, n'est-ce pas? Elle est mal adaptée au problème de notre époque, c'est une époque où il y a des chocs monétaires. Donc, je crois que cette théorie, qui se veut rigoureuse, elle est quand même extrêmement contestable, et en tout cas, ne nous donne pas un instrument d'analyse pour juger s'il est préférable ou pas d'avoir une seule monnaie sur un espace qui se veut intégré. Quelques mots donc sur les coûts et les bénéfices que l'on peut retirer d'appartenance à une zone monétaire. Mais je crois que ces coûts et ces bénéfices, ils sont faibles. Ils sont faibles parce qu'il y a largement indépendance entre le problème monétaire et le problème réel. En laissant de côté, bien évidemment, les effets structurels que j'ai rappelé tout à l'heure, qui sont mis en avant par la théorie autrichienne. Et je veux dire que la raison pour laquelle je n'étais pas particulièrement favorable à la création de l'euro, c'est précisément celle-là. À savoir que j'estimais qu'on donnait trop d'importance au problème monétaire par rapport à d'autres problèmes qui étaient importants, qui étaient par exemple la réforme fiscale, etc. Et pendant des années, toute la politique économique a été dirigée vers cet objectif, créer les conditions qui avaient été décidées a priori de manière arbitraire, les conditions pour entrer dans la zone euro. Et j'aurais préféré qu'on passe du temps à s'interroger sur les problèmes budgétaires, par exemple sur la réforme fiscale. Or, il y avait ce fameux critère de Maastricht, n'est-ce pas, qui interdisait de dépasser un certain déficit public, un certain taux de dette publique. Et au nom de ce critère de Maastricht, on refusait toute diminution des impôts parce qu'il y avait, disait-on, un risque de déficit public plus élevé, ce qui est possible dans le court terme, mais à long terme, la réforme fiscale est le seul moyen de créer la prospérité et donc de résoudre en même temps le problème budgétaire. Et je le répète, le problème majeur, à mon avis, c'était pas tellement d'avoir ou pas une monnaie unique en Europe, c'était d'avoir de bonnes monnaies, c'est-à-dire une monnaie qui ne soit pas inflationniste, mais je vais revenir sur cette idée tout à l'heure. Alors, quels peuvent être justement les critères que l'on peut conserver pour savoir s'il faut ou non une monnaie unique comme l'euro? Alors, j'ai récusé les critères d'ordre macroéconomique pour les raisons que j'ai indiquées, en particulier donc les idées, à la fois les idées très, très courantes sur le rôle de la monnaie et l'intégration économique, mais aussi quelque chose comme la théorie des zones monétaires optimales. Et je pense qu'il serait préférable d'avoir une approche plus microéconomique du problème, et tout simplement s'interroger justement sur le rôle de la monnaie. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne monnaie? Ce qui est important pour les Européens, c'est d'abord d'avoir une ou plusieurs bonnes monnaies. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne monnaie? Eh bien, c'est une monnaie qui correspond à son rôle, qui remplit bien son rôle. Quel est le rôle d'une monnaie? Eh bien, le rôle d'une monnaie, c'est d'être un pouvoir d'achat en attente, qui nous permet d'obtenir ce que l'on veut, quand on veut, dans les conditions qu'on veut. Et une monnaie est d'autant meilleure qu'elle joue mieux ce rôle de pouvoir d'achat en attente. Or, ce rôle de pouvoir d'achat en attente, il est composé de deux éléments. Il y a tout d'abord, justement, la valeur de la monnaie en termes de pouvoir d'achat. Et de ce point de vue-là, la qualité de la monnaie s'apprécie de manière très simple. Une monnaie est d'autant meilleure qu'il y a moins d'inflation. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? C'est le fait que le prix des biens augmente en termes de monnaie, ou, et je préfère le définir de cette manière, ou que le prix de la monnaie en termes de biens réels diminue. Et de ce point de vue-là, la déflation, c'est le meilleur des systèmes, puisque la déflation, ça signifie que le pouvoir d'achat de la monnaie augmente. Alors, c'est bien que la déflation, elle a mauvais stress. Pourquoi? Parce qu'on confond déflation et dépression. Tout à l'heure, je vous rappelais, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans les années 30. Il y a eu une baisse des prix imprévisible. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas qu'elle baisse des prix, mais c'est qu'elle soit imprévisible. Si on avait prévu la baisse des prix, les contrats de salaire, par exemple, se seraient adaptés, auraient été ajustés à cette baisse des prix anticipée. Ce qui a été difficile, c'est que les contrats de salaire avaient été signés avec l'idée que les prix seraient stables ou qu'ils augmenteraient, et puis en fait, ils ont baissé. Mais la déflation est quelque chose qui est nécessairement bon, puisque cela implique qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat de la monnaie. Et puisque le rôle de la monnaie, c'est de maintenir le pouvoir d'achat, plus cette déflation, plus la monnaie est bonne. Donc nous avons là un critère de jugement qui est bon, mais qui n'implique rien, évidemment, quant au problème de savoir s'il faut une monnaie en Europe ou plusieurs. Ce qu'il faudrait, de ce point de vue-là, c'est évidemment qu'il y ait des limites strictes à la création monétaire. Et alors, de ce point de vue-là, je voudrais évoquer une idée qui me paraît une évidence, mais qui est malheureusement jamais soulignée pratiquement, sauf par les économistes autrichiens, évidemment, c'est l'idée qu'il n'est pas nécessaire de créer de la monnaie. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de créer de la monnaie. Et pour quelles raisons? Imaginez, pour simplifier, un monde où il y a une seule monnaie. Et imaginez que la quantité de monnaie reste constante pour l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des progrès techniques, des progrès de productivité, et les biens pour lesquels les progrès de productivité sont les plus importants vont voir leur prix baisser. La concurrence va faire que leurs producteurs vont proposer des prix de plus en plus faibles, parce qu'ils en ont la possibilité, du fait des gains de productivité, et ils veulent gagner des parts de marché en proposant des prix plus faibles. Donc on va avoir continuellement une baisse en moyenne, une baisse des prix, avec bien entendu des baisses plus ou moins importantes selon les gains de productivité dans les différents secteurs. Donc on va avoir une déflation, une baisse des prix, et il n'est absolument pas nécessaire, bien au contraire, de créer de la monnaie. Donc nous n'avons pas besoin, dans une société, qu'il y ait une institution quelconque qui crée de la monnaie. De ce point de vue-là, on n'a pas besoin de banque centrale, bien évidemment. C'est un rôle non pas seulement inutile, mais nuisible, puisque nous avons vu que la création monétaire se traduisait par de l'inflation et par des distorsions dans la structure des prix, dans la structure de production. C'est quand même quelque chose de fantastique, n'est-ce pas, qu'on nous répète indéfiniment et qu'on répète aux étudiants d'économie qu'il faut une banque centrale pour créer la monnaie et réguler la création monétaire. Puisque la création monétaire est nuisible, il faut personne pour la réguler. Ça me paraît être une évidence logique. Je défie quiconque de démontrer qu'il y a une erreur dans le raisonnement que je fais. Ça me paraît une évidence parfaite. Alors, comment fait-il qu'on vive à notre époque sur des erreurs tellement permanentes? C'est quand même pour moi un mystère grandiose. Donc, pas besoin de banque centrale. Et ça, évidemment, ça aura quelques conséquences du point de vue de l'unité monétaire. Donc, je le rappelais, il y a deux caractéristiques de la qualité de la monnaie qui sont fortes. Capacité à maintenir le pouvoir d'achat, et puis bien évidemment, la dimension engendre de circulation. Car il est bien évident qu'une monnaie est utile pour moi, s'il est utile pour vous. Si chacun d'entre nous avait sa propre monnaie, elle ne pourrait pas jouer son rôle, parce qu'il faudrait que dans une transaction, que nous nous informions sur la qualité de la monnaie qui nous est proposée, etc. Donc il est bien évident que la situation optimale, ce n'est pas une situation où il y a un nombre absolument considérable de monnaie. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la situation optimale, c'est une monnaie unique dans le monde ou en Europe. Nous ne le savons pas. Je crois que c'est une caractéristique des libéraux, et peut-être surtout d'Autrichiens, d'être un peu modestes, c'est ça qu'ils ne savent pas. Et sa principale, la principale leçon qu'on sait, comme disait M. Thatcher, le marché, quand on lui parlait du taux de change, et qu'on lui disait qu'il faut intervenir pour maintenir le taux de change à la tête du projet, le marché sait des choses que nous ne savons pas. Vous avez raison, elle avait un bon réflexe qui était bien éduqué en économie. Donc nous ne savons pas. Il se peut qu'il soit optimal que le monnaie dans le monde, mais nous n'en sommes pas sûrs. Et il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Et d'ailleurs, je me disais au passage, je trouve assez intéressant de constater qu'il y a actuellement des développements qui sont intéressants à suivre sur les monnaies locales. Alors les monnaies locales, elles sont bien souvent mise en place par des gens qui ont des pensées un petit peu communautaristes, si mieux, comme ça. Par exemple, on crée une monnaie locale qui souvent se démote en un taux de change fixe avec une monnaie de franc Deutschmark. C'est très en particulier par Amazon. Alors ils veulent, en utilisant cette monnaie, privilégier les achats auprès des commerçants locaux. On peut les critiquer en disant ils ont tort, parce que c'est une sorte de forme de protectionnisme. Mais si ça leur fait plaisir, c'est leur problème. Moi, ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire, ça veut bien dire une chose, à savoir que les services rendus par la monnaie sont des services diversifiés. Il y a le service de maintien de pouvoir d'achat, il y a le service de transaction. Mais pourquoi pas? Si on veut manifester son appartenance à une communauté en utilisant une monnaie plutôt qu'une autre, bon, et bien on manifeste comme ça. À condition que ça ne soit pas obligatoire. Vous pourriez très bien dire, mais c'est le cas avec l'euro. On manifeste qu'on est citoyen européen avec l'euro. On ne va pas nous donner le choix. On nous a imposé l'euro. C'est là toute la différence. Si l'euro nous avait été proposé comme une monnaie en concurrence avec d'autres, et en particulier les monnaies privées, j'aurais dit, bien. Peut-être que c'est la meilleure des solutions. Mais nous ne le savons pas. Les technocrates et les politiciens ont décidé pour nous que la meilleure des monnaies dont on avait besoin, c'était l'euro. Et donc ça frappe de voir que, d'une part on dit que Il faut une seule monnaie en Europe ou même dans le monde. Il y a combien de gens qui font ça, qui font créer une banque centrale mondiale ou une monnaie mondiale. Et puis de l'autre côté, et développé justement par des gens de gauche, c'est ça qui est intéressant, il y a des monnaies locales. Alors c'est quoi la vérité? Nous ne savons pas de ça. Donc l'idée que la monnaie doit avoir un certain espace de circulation, une idée tout à fait normale, autrement dit. Il est vrai que s'il y a trop de monnaie et elles n'ont pas bien service, il y a une dimension optimale de la recirculation et une dimension donc que nous ne connaissons pas, et il faut révéler cette dimension optimale. Et il n'y a pas d'autre moyen pour cela qu'un concurrent. Et j'ai souvent souligné, je suis seul, il y a un métier avant moi, qu'on aurait fait un pas bien plus important vers l'intégration monétaire en Europe si au lieu de créer de toute pièce une monnaie constructiviste qui en outre n'est pas soumise à des limitations strictes du point de vue de la création monétaire, mais on avait tout simplement décidé qu'il y a liberté monétaire en Europe. Et vous pouvez, ce qui impliquait deux choses, de supprimer les contrôles de change, qui n'existent pratiquement plus maintenant, mais qui ont existé pendant bien longtemps, et surtout de supprimer ce qu'on appelle le cours forcé. Le cours forcé, c'est-à-dire l'obligation légale d'utiliser dans un pays ou dans un ensemble de pays, l'Europe, la monnaie monopolistique offerte par la Banque centrale. Tout monopole est mauvais, mais les seuls vrais monopoles, c'est les monopoles publics. La monnaie en donne un exemple. L'autre jour, j'ai fait une conférence sur ce genre de problème en Bulgarie, et puis il y avait le vice-président de la Banque centrale. Alors, je pensais qu'il allait réagir violemment contre ce que je disais. Et au contraire, il m'a dit, oui, c'est ce qu'on fait, nous. On a supprimé le cours forcé. Les citoyens bulgares peuvent choisir la monnaie qu'ils veulent. C'est très bien. Voilà. Et donc, ils ne décident pas de passer à l'euro. Ils laissent les gens choisir l'euro ou la monnaie nationale. Donc, on aurait pu adopter cette démarche de créer la concurrence entre les monnaies nationales, éventuellement créer un euro, et s'il était bien conçu, peut-être qu'il serait devenu la monnaie préférée des Européens, mais nous ne le savons pas. Alors, ceci étant dit, je voudrais juste dire quelques mots sur ce qu'on appelle la crise de l'euro. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la crise de l'euro? C'est d'une part le reflet de la crise mondiale, je ne parle pas de ça, je fais exprès parce que je serais tenté sinon de parler de ceux qui sont dans ce livre, alors là on y serait content, n'est-ce pas? Mais je pense à des problèmes plus pratiques, par exemple le problème de la Grèce. Je ne vois pas en quoi c'est une crise de l'euro. Alors d'abord, ce n'est pas le problème de la Grèce, c'est le problème du gouvernement grec. Il faudrait qu'on fasse attention au mot, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème de la Grèce. Et on dit il faut aider la Grèce. Ah non, ce n'est pas la Grèce qu'on aide, c'est le gouvernement grec. Parce qu'il y a un sentiment de solidarité entre le gouvernement, il ne supporte pas l'idée que le marché puisse venir sanctionner la mauvaise gestion de l'un des leurs. Que le marché puisse demander des taux d'intérêt plus élevés parce que le gouvernement grec gère mal son budget, c'est une chose absolument horrible et qu'on ne peut pas supporter. Donc on dit, on va aider la Grèce. Mais parce que nous sommes solidaires dans la zone euro. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a strictement aucun rapport. Le problème monétaire, c'est un problème monétaire. Et le problème budgétaire, c'est un problème budgétaire, c'est un problème des finances publiques. Si la Grèce est mal gérée par un gouvernement qui a fait trop de dépenses, qui a augmenté trop les dépenses, les salaires des fonctionnaires, qui a embauché par démagogie, etc., ben, qui règle son problème. Il faut quand même être responsable. Un individu qui a du mal à rembourser, eh bien, on ne va pas exprimer la solidarité à son égard, il va serrer la ceinture. C'est tout, n'est-ce pas? Alors, pourquoi on a deux logiques différentes vis-à-vis des individus ou des gouvernements? Tout à l'heure, je rappelais en commençant qu'on nous dit actuellement que l'euro ne peut pas fonctionner avec des économies qui sont trop différentes. C'est totalement faux. Il y a un exemple qu'on ne cite jamais, mais qui est pourtant frappant, qui est celui du franc CFA. Il y a quand même des structures totalement différentes entre la France d'une part et puis les pays africains de la zone franc. Ça a parfaitement fonctionné. On dirait qu'il y a eu une dévaluation dans les pays africains. Moi, j'étais contre les dévaluations. Je suis toujours contre les dévaluations, d'ailleurs. Pourquoi je suis contre les dévaluations? Ce qui signifie d'ailleurs que justement, je ne considère pas que c'est un instrument de politique économique qu'on devrait utiliser. Parce que d'abord, une dévaluation, c'est du vol.
Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? C'est une situation où on avait dit aux gens, voilà, je promets, la Banque centrale, par exemple, je promets d'échanger ma monnaie contre la monnaie étrangère ou l'or à tel prix, je vous vends des francs, et puis je vous les échangerai contre ce que j'ai promis, par exemple, certaines quantités d'or. Et puis quand on revient pour échanger ces billets, la Banque centrale nous dit, ah non, j'échange le prix, je vous achète beaucoup moins cher celui que je vous ai vendu. C'est du vol pur et simple, n'est-ce pas? Une banque privée qui ferait ça serait poursuivie devant les tribunaux, c'est évident. Et puis le président serait peut-être mis en prison. Les gouvernements de banque centrale ne sont pas mis en prison quand ils dévaluent. On dit, ah, c'est bien, ils vont pouvoir nous faire une dévaluation. Non, ils font une spoliation. Bon, donc ça me paraît l'argument fort, n'est-ce pas, contre les dévaluations. Toujours dit que la zone franc, qui est maintenant de l'euro, bon, c'est pas trop. Elle fonctionne avec des économies qui sont extrêmement différentes. Il n'y a aucun lien entre la structure réelle d'un pays et puis la monnaie. Vous pouvez avoir une même monnaie avec des pays très différents ou avec des pays semblables, ça n'a strictement aucun rapport. Donc la crise du gouvernement grec, c'est pas une crise de l'euro, la crise de l'Irlande, c'est pas une crise de l'euro, ce sont des crises budgétaires, fiscales, nationales. Et pour ma part, je suis d'ailleurs choqué, je dis au passage que l'on aide la Grèce, comme on dit, qu'on aide le gouvernement grec, parce que ça veut dire qu'on prélève des ressources sur les citoyens de la zone euro pour prêter à ceux qui sont les plus mal gérés. C'est quand même pas quelque chose de tout à fait recommandable. Que dirait-on d'une banque qui aurait pour rôle de prêter à ceux qui utilisent le moins bien possible toutes les ressources? Donc on ne devrait pas s'occuper de la Grèce. C'est la prétendue solidarité, c'est là qu'on voit, une fois de plus, l'interférence qui existe entre les problèmes économiques monétaires d'une part et les problèmes politiques. Une fois de plus, on fait erreur en reliant tout cela, mais pour les soi-disant constructeurs de l'Europe, eh bien, il faut exprimer une solidarité politique à partir de problèmes monétaires. Alors, pour terminer, quelle solution pour le futur? Bien évidemment, du point de vue monétaire, ce qui est important, c'est de limiter l'inflation monétaire, mais si possible, même d'aller jusqu'à l'extrême que je souhaite, à savoir d'empêcher toute création monétaire. Et ceci, évidemment, impliquerait la suppression des banques centrales. Et une fois de plus, ce que je préférerais, en Europe, c'est une situation où on est concurrent entre les monnaies. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que le titre que j'aurais dû donner à cette présentation, c'était monnaie commune avec un S. Monnaie commune en ce sens qu'elles sont communes à tous les citoyens qui ont la possibilité, qui auraient la possibilité de choisir entre ces différentes monnaies, et non pas une monnaie unique qu'on leur impose. Et bien entendu, ces monnaies communes, elles pourraient être de différentes natures. Ça peut être des monnaies nationales, des monnaies existantes, mais je préférerais qu'on aille encore plus loin, et qu'on donne la liberté à tout le monde d'émettre des monnaies, donc la possibilité d'avoir des monnaies privées. Et bien évidemment, je suis de ce point de vue-là en faveur d'un système de ce qu'on appelle le free banking, de banque libre, non seulement bien sûr à l'échelle de l'Europe, mais à l'échelle du monde. Mais encore, pourquoi se limiter aux frontières européennes? Qu'est-ce qu'elles ont de magique, n'est-ce pas? De même qu'on prétend qu'il est bon d'avoir liberté des échanges à l'intérieur de l'Europe, mais il faut que l'Europe se protège du reste du monde. Au nom de quoi? Vous ne pouvez pas me démontrer pourquoi tout d'un coup la liberté des échanges deviendrait nuisible lorsqu'elle dépasse certaines frontières. Il est toujours bon de pouvoir se procurer un bien au prix le plus faible. C'est l'intérêt de tous les Européens de pouvoir acheter dans le monde entier ce qui désir au prix le plus faible. Et de ce point de vue-là, du point de vue de l'intérêt des citoyens, je crois que la véritable politique consisterait à supprimer toutes les barrières douanières, même si les autres ne le font pas. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les négociations. Ce qui est important, c'est de pouvoir importer à un prix qui est faible. Eh bien, de la même manière, pour les monnaies, ce qui serait important, c'est la liberté monétaire à l'échelle du monde, la concurrence monétaire à l'échelle du monde. Alors, je voudrais juste, en quelques mots, préciser comment fonctionnerait un système de banque libre. Il y a une caractéristique de monnaie que je rappelais tout à l'heure, à savoir qu'il est évident
qu'il ne serait pas optimal d'avoir un très grand nombre de monnaies. Ce qui signifie que dans tout système monétaire, on a éventuellement plusieurs producteurs de monnaie, mais qui font des accords entre eux pour proposer la même monnaie. Ils font ce qu'on peut appeler un accord de cartel. Un système monétaire, c'est un système de cartel. Et c'est un système qui fonctionne bien. Je voudrais juste vous donner l'exemple bien connu de l'Écosse au XVIIIe siècle. La monnaie a été émise par cette ou huit banques privées, bien sûr. Donc, ça, qui émettait des billets, sur le billet, il y a le nom de la banque, n'est-ce pas? Mais il y avait un accord entre les différentes banques pour racheter à un prix fixe les monnaies des autres. Et ce qui fait que chaque banque émettait sa propre monnaie, mais l'espace de circulation, c'était pas simplement l'espace de ses clients, mais des clients de toutes les banques. Le système a fonctionné parfaitement. C'était une époque de croissance importante en Écosse, avec des taux d'intérêt qui sont restés stables, contrairement à ce qu'on connaît à notre époque, et qui sont restés relativement faibles, autour de 3%. Ce que je veux dire par là, c'est que une monnaie n'a pas besoin d'être émise par un seul émetteur, par exemple la Banque Centrale, je crois. Elle peut être émise par plusieurs émetteurs, mais qui se coordonnent entre eux pour donner des garanties mutuelles de change à prix fixe. Et bien entendu, s'il y a concurrence monétaire, c'est l'intérêt de chaque banque ou de chaque cartel de banque d'émettre une bonne monnaie, parce que les bonnes monnaies chassent les mauvaises, comme pour n'importe quel bien, évidemment. La concurrence a ce grand mérite qu'elle permet aux utilisateurs de sélectionner les biens qui leur paraissent leur rendre les meilleurs services. Donc, dans un système de banque privée, de liberté monétaire complète, mais encore, nous ne savons pas, bien évidemment, combien il y aurait de monnaie dans le monde. Je n'ose même pas dire combien il y aura en Europe, parce que les frontières disparaîtraient, évidemment. Il n'y a pas de nécessité pour qu'il y ait coïncidence entre un espace monétaire et un espace politique. C'est parce que l'espace politique existe, c'est parce que les gouvernements nous font croire qu'une nation doit avoir sa propre monnaie, qu'il y a à notre époque coïncidence entre l'espace politique et l'espace monétaire. Il n'y a aucune raison de principe pour qu'il en soit ainsi. Donc si nous avons une liberté bancaire totale dans le monde, eh bien, nous aurions des espaces monétaires qui se chevaucheraient, et on utiliserait à travers le monde la monnaie A, d'autres individus estimeraient préférable d'utiliser la monnaie B, etc., sans qu'il y ait aucune localisation de ces espaces. Simplement, je le répète, il y aurait une incitation à avoir une bonne monnaie, ce qui impliquerait probablement de ne pas créer une nouvelle unité monétaire, bien évidemment, puisque le meilleur des mondes, c'est un monde où il n'y a pas de création monétaire. Alors, ceci nous permet, par exemple, d'évaluer une réforme qui est souvent évoquée, parce que certaines personnes disent qu'il pourrait revenir à l'état normal. Bon, pour moi, ce qui est important, c'est pas de savoir si la garantie de change donnée par les émetteurs de monnaie, c'est une garantie en termes d'or ou d'autre chose. On peut inventer bien des solutions de ce point de vue-là. Ce qui est important, c'est de savoir qui donne la garantie. Un banquier privé qui donne une garantie en or, en argent, ou contre un panier d'actions, pourquoi pas, ou tout ce que vous voulez, il est responsable. Il sait très bien que s'il n'est pas capable de maintenir sa garantie, c'est-à-dire qu'il dévalue, eh bien il sera liquidé du marché et éventuellement traîné devant les tribunaux. C'est ce qui s'est passé avant que les banques centrales existent. Ça a parfaitement fonctionné dans le système de banque privée, de monnaie privée, parce que les banquiers étaient responsables. Quand on regarde l'évolution historique, c'est tout à fait frappant. Pendant 20 siècles, on a eu un taux d'inflation qui était à peu près nul, avec une petite pointe quand on a spolié les Indiens d'Amérique du Sud en volant leur or. Donc là, il y a une petite pointe d'inflationniste, mais du fait de l'État, pas plus, c'est le monde privé, n'est-ce pas? Au 20e siècle, ça devient vertigineux, n'est-ce pas, l'inflation. Et puis, il n'y a jamais eu autant de crises monétaires. Et je trouve assez ahurissant qu'on puisse continuer à dire qu'il est nécessaire d'avoir des banques centrales, des autorités monétaires, parce qu'on a besoin de stabilité monétaire. Les seuls agents
qui crée de la stabilité, c'est les banques centrales. Alors c'est tout de même un paradoxe étonnant de notre époque, qu'on ne sache même pas regarder les faits. Quand il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de crise monétaire. Bon, c'est les banques centrales, et pour quelle raison? Parce que les banques centrales, ce sont des organismes publics, et malheureusement, on vit avec l'idée qu'il y a d'une part le monde civil que j'ai envie d'appeler le monde civilisé, où le contrat doit être honoré, et puis il y a le monde barbare, qui est le monde public, où les autorités peuvent agir de manière discrétionnaire. Elles donnent une garantie de convertibilité à prix fixe, mais elles ne sont pas tenues de maintenir leurs promesses. On peut de manière arbitraire tout changer quand on veut, augmenter les impôts, ruiner les gens, les spolier, les dévaluer, etc. Voilà le monde dans lequel nous vivons, mais je ne sais pas pour quelle raison. La majorité des gens pensent qu'on a besoin de ces régulateurs qui nous sont les bandits de grand chemin. On parle bien souvent, n'est-ce pas, du marché sauvage. Le marché ne peut pas être sauvage. Seul l'État est sauvage. Je ne dis pas qu'il peut être sauvage, il l'est par nature. Il n'est pas nature, puisqu'il n'agit que par contrainte, de manière discrétionnaire, et c'est ce que nous voyons dans la monnaie. L'histoire, d'ailleurs, nous montre bien. On avait au départ des banques privées qui donnaient des garanties de convertibilité en or, qui étaient obtenues, et puis, peu à peu, les banques centrales sont apparues, bien souvent dans des conditions très scabreuses. On a donné un monopole à ces banques, par exemple, pour l'émission de billets. Et à partir du moment où il y a le monopole public, eh bien, toutes les catastrophes sont possibles. Et donc, elles se sont permis de dévaluer par rapport à l'or. Au début, on donnait une garantie, et donc on s'est donné une garantie en or. Mais elle change, la garantie. Donc, ce n'est pas une garantie, mais ça, puisqu'on peut de manière discrétionnaire la changer. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ce qui est important, c'est pas de savoir en quoi la garantie donnée, est-ce que c'est en or ou autre chose, est-ce qu'il faut un étalon or, un étalon argent, un étalon action, tout ce qui est. Ce qui est important, c'est de savoir si la garantie donnée par quelqu'un de responsable, qui est forcément un capitaliste, ou quelqu'un d'irresponsable, qui n'est pas un capitaliste. J'ai oublié de vous apporter, c'est amusant, quelqu'un m'avait donné récemment un billet de la Banque centrale de Zimbabwe. C'est un billet de 100 000 milliards de dollars de Zimbabwe, il a écrit dessus, je promets d'échanger ce billet contre, justement, 1 000 000 000 000 de dollars de Zimbabwe. C'est vraiment la preuve même de la folie de cette époque. Il promet d'échanger contre quelque chose qui est identique et qui n'a aucune valeur, parce que ce n'est pas une garantie de change, mais on a gardé la formule ancienne. Et souvent, d'ailleurs, sur les billets dans beaucoup de pays, on a IOU, je vous dois, n'est-ce pas, telle somme, mais la garantie est disparue, on garde la formule malgré tout, et c'est une manière visible de voir, n'est-ce pas, les escroqueries dont nous sommes depuis. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet annoncé, le monnaie unique en Europe. Monnaie commune avec un S par français.
Avant de donner la parole, je voudrais juste souligner un point dans votre intervention qui m'a paru tout à fait intéressant.
Un seul ?
Non, mais j'en retiens un auquel je ne suis pas particulièrement sensible. C'est le fait que c'est le sous-bassement méthodologique de votre intervention. Je crois est un peu la marque propre de l'école autrichienne, c'est-à-dire, un, nous sommes dans l'ignorance et dans l'incertitude, vis-à-vis de l'arbitrarité sociale, vis-à-vis de l'avenir, et deux, c'est par la concurrence, donc finalement par la liberté de l'offre et de la demande, qu'on découvre, qu'on expérimente cette réalité, et que donc, qu'on crée des opportunités. Voilà, je vous laisse la parole, si vous voulez, on a le temps d'un petit dialogue, vous avez quelques minutes, qui veut prendre la parole poser des questions, c'est pas
un exemple sur le plan CFA dont vous avez parlé. Si c'est le Mali ou un pays voisin qui est sorti pour des raisons logistiques du franc CFA.
Oui, c'est le Mali.
C'est le Mali, hein. Et qui s'est rendu compte à ce moment-là qu'il avait beaucoup de mal à sortir du franc CFA pour continuer d'avoir cours dans les pays voisins et que les gens, donc, qui veulent garder le franc CFA, mais sans accepter la monnaie qu'on voulait leur imposer et aller les dépenser dans un pays voisin. En fait, sortir une monnaie, je pense à la classe que je voulais avoir votre commentaire là-dessus, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Il faut des mesures extrêmement coercitives de contrôle d'échange, etc.
Oui, non, mais j'en suis d'accord. C'est très difficile de changer de monnaie. Nous l'avons tous expérimenté. L'une des raisons de laquelle assez réticent à l'égard de la fonction d'euro, je vous disais, le calcul économique pendant quelques années va être rendu plus difficile. De ce point de vue-là, on peut se rapprocher à ce qu'a fort bien expliqué Mises. Comment se fait-il que nous sachions ce que représente un billet? C'est parce que nous avons accumulé toute une expérience, une espèce de savoir, n'est-ce pas, implicite dans notre tête, qui fait que quand on voit 10 francs, on a l'idée de ce que ça représente pour nous. Et quand on change d'unité monétaire, on est complètement perdu. C'est pourquoi on a été obligé pendant des années de convertir dans sa tête l'euro en francs. Ça a un coût, c'est un coût psychologique. Et encore maintenant, moi je m'arrive, je ne sais pas si c'est votre cas, je suis peut-être particulièrement réticent. Donc c'est très difficile. Mais finalement, on s'est habitué à l'euro. Les Grecs se sont habitués à l'euro. Donc faire le chemin inverse est difficile aussi pour cette raison-là, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi moi je suis tenté de dire, l'euro, c'était pas quelque chose. Une révolution formidable, il y a bien d'autres voies possibles pour l'intégration monétaire, et il existe. Alors, pourquoi en sortir? C'est pas ça qui va résoudre les problèmes de la Grèce. Alors, bien entendu, ça, bon, je ne vais pas développer, l'idée qui est derrière la tête des gens, c'est que si la Grèce revenait à une monnaie nationale, le drachme, eh bien, elle pourrait dévaluer. C'est toujours cette idée-là. Pourquoi on pense ça? Parce qu'on dit, bon, si on dévalue, les prix vont monter, parce qu'il y a une contagion à la salle des prix. Et donc, ça va diminuer les salaires réels, et en particulier les salaires réels des fonctionnaires, parce que l'État n'a pas le courage de les diminuer comme ça nominalement, donc il va faire, là encore, une illusion, il va faire croire aux gens que leur pouvoir d'achat n'est pas atteint. Mais les gens ne sont pas idiots, ils vont se rendre compte que les prix sont augmentent, ils vont demander des augmentations de salaire. Et ils n'ont pas, il y aura des troubles. Dans le très court terme, on peut avoir l'impression d'un gain, à partir d'une tromperie, une fois de plus, c'est l'immoralité profonde de l'État, n'est-ce pas? On essaye de tromper les gens en leur faisant croire que les choses sont différentes de ce qu'elles sont. Mais fondamentalement, on change bien au problème, à savoir que on a trop dépensé qu'il faut rembourser la dette. Donc c'est une illusion de penser, une fois de plus, que par un truc monétaire, on peut résoudre des problèmes qui sont des problèmes structurels fondamentaux. Et ce sont ces problèmes-là qu'il faut résoudre.
Vincent, vous pouvez discuter avec les personnes. Dans le cadre d'un système de concurrence libre entre des monnaies avec des entrepreneurs privés qui pourraient créer leur propre système, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'ils sont obligés de payer ces impôts dans une certaine monnaie qui va être imposée par le fisc va obliger en fait tous les gens qui ont ces monnaies concurrentielles à les convertir dans la monnaie de l'impôt, surtout dans un pays où il y a 60% presque de notre revenu qui est transféré à l'État, ainsi qu'une masse gigantesque de fonctionnaires qui reçoivent eux-mêmes leur quittance de l'État dans une monnaie particulière, et que du coup, il y a effectivement un recoupement qui va s'imposer naturellement entre une zone d'influence d'un État et la monnaie qui sera utilisée. Presque de manière majoritaire, parce que c'est un très grand coût si on décide de faire toutes ces affaires dans une monnaie concurrentielle, à la fin du mois, d'aller changer la moitié pour payer sa TVA, et toutes les taxes obligatoires. Donc, tout ça, ce n'est pas un pays dans tous les sens.
Je vous dis que ce n'est pas faux, bien sûr. On pourrait imaginer, évidemment, que l'État dise voilà, moi j'utilise cette monnaie, par exemple, imaginons une situation où on aurait d'une part l'euro, et d'autre part, des modèles privés qui circuleraient librement, pour procéder librement. Et l'État dirait, moi j'utilise l'euro pour déterminer les impôts que vous devez payer, mais vous pouvez me payer en n'importe quelle monnaie au cours, au taux qui prévaudra au jour où vous paierez vos impôts. Après, la première chose. Mais je serais tenté de dire aussi que très probablement, dans cette hypothèse, les monnaies privées seront meilleures que les monnaies publiques. Elles gagneront du pouvoir d'achat. Donc les gens seront tentés d'utiliser le plus possible les monnaies privées qui gagnent du pouvoir d'achat, et puis le jour où ils sont obligés de payer leurs impôts, ils font la conversion en question. À ce sujet, je voudrais juste souligner un chose suivante, c'est que au début de ce siècle, pour revenir au plan de la crise, au début de ce siècle, le taux de croissance moyen dans le monde était 5%. C'était considérable, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'était pas partout tout de même, mais 5% c'est quand même considérable. Si on avait 2 ou 3% d'inflation. Ça signifie qu'il y a 7 à 8% d'écart par rapport à une situation où il y aurait eu une quantité de monnaie constante et où les prix auraient en moyenne baissé de 5%. 7-8%, c'est absolument considérable. Ça veut dire une création de crédit d'origine monétaire absolument énorme. C'est ce qui s'est passé, justement. Or, si vous prenez la même situation, et si vous dites, bon, vous avez d'une part l'euro avec une création monétaire de l'ordre de 2-3% par an, c'est à peu près le taux admis. Mais si par ailleurs, vous avez des monnaies privées qui sont, dont les quantités sont constantes, et 5% de croissance en moyenne dans l'euro, mais vous auriez chaque année en moyenne un écart de 7 à 8% dans le taux de change entre l'euro et les monnaies privées en question. C'est quand même une forte incitation à utiliser les monnaies en question.
Juste un point de théorie économique. Vous avez commencé votre exposé en parlant de la loi de l'offre, qui est chère aux libéraux, en expliquant que l'offre crée sa propre demande. On a parfois quand même l'impression que c'est un peu la poule et l'œuf, cette histoire. Est-ce que vous pouvez donner 2-3 arguments qui démontrent que c'est bien l'offre qui crée la demande et pas la demande qui crée l'offre?
Mais je dirais que c'est ni l'une ni l'autre en ensemble. Je dirais que l'offre et la demande sont absolument inséparables comme les deux lames d'un ciseau. Imaginez justement, temporairement, qu'il n'y a pas de monnaie. Bon, et qu'on est dans l'économie de troc. Vous produisez quelque chose, c'est votre offre, et vous demandez quelque chose. Vous ne pouvez pas séparer, dans l'échange, vous ne pouvez pas séparer la partie offre et la partie demande. Donc ça n'a pas de sens de dire que c'est la demande qui crée l'offre ou l'offre qui crée la demande. Vous regardez quelle est la situation des marchés, vous voyez à quel prix vous échangez par exemple des tomates contre des œufs. Alors vous produisez des tomates, vous échangez. Vous regardez quel est le taux de change entre les œufs et les tomates, et vous êtes incité à produire plus ou moins de tomates, selon le prix qui vous est offert, et pareil pour les producteurs d'œufs. On ne peut pas dire que c'est l'offre qui crée la demande et la demande. Il y a une seule réalité. Je suis toujours tenté d'utiliser l'expression de Mises, l'action humaine. C'est la seule réalité de l'action humaine. Les êtres humains, ils agissent, et ou bien ils résolvent eux-mêmes leurs propres problèmes, ou bien ils passent en l'échange. Et l'échange est toujours un mélange d'offres et de demandes, de manière inséparable. Donc le fait même de séparer la demande est quelque chose d'absurde, logiquement. Et dire que l'on peut artificiellement accroître la demande, ou accroître l'offre d'ailleurs. Autrement, vous savez, il y a eu, à l'époque de Ricard en particulier, on a dit, bon, il y a la théorie de la demande, c'est keynésien, puis la théorie de l'offre. Moi, j'aime pas cette étiquette, ça n'existe pas la théorie de l'offre, pas plus que la théorie de la demande. Et je préfère, je ne sais pas, le supply side economics, je préfère appeler la théorie des incitations. Et c'est ça, en réalité, je crois que les économistes seraient gagnés en souligner, à savoir que si, par exemple, on diminue les taux d'impôt, eh bien, l'incitation à agir, je ne dirais pas simplement à offrir, l'incitation à agir, c'est-à-dire d'offrir des choses pour en demander, et bien l'incitation est la plus grande. Pourquoi on offre des choses sur le marché? Parce qu'on demande. Ce que l'on désire, c'est ce que l'on demande, n'est-ce pas? Donc la demande d'un individu est limitée en quelque sorte. Mais pour ça, il faut qu'il fasse l'effort de produire. Mais les deux sont inséparables. Donc la seule réalité, ce sont les plans humains, les désirs humains et l'action humaine. Et ce qui est important du point de vue de fonctionnement d'un système social, c'est le système d'incitation qui est à l'intérieur. Il dépend des institutions, parce qu'il y a les droits de propriété, etc., mais aussi, bien évidemment, de la fiscalité, de la réglementation, etc. C'est ça qui détermine le comportement des individus. Donc, ne parlons pas de théorie de la demande, ne parlons pas de théorie de l'homme, parlons de la théorie d'action humaine. Et là, on a quelque chose qui est compréhensible.
Manuel ? Emmanuel Martin, économiste pour la Fondation Atlas, aussi professeur Canon.
Qui fait un très bon boulot.
Merci. Dans un système de monnaie privée, ça implique que les entrepreneurs banquiers donc, vont créer de la monnaie pour proposer un service monétaire. Mais comment faire, on l'a bien vu avec la dernière crise, comment faire pour éviter qu'ils ne profitent de l'effet de levier ou des choses comme ça, comment faire pour qu'ils se régulent au sens profondeur par le bas, donc, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire sur le statut juridique des banques, justement,
avec
de manière à ce que ces banquiers soient responsables.
Pas, ce que j'ai déjà dit, et ce que je crois profondément, c'est que, justement, s'ils font de la surexpansion monétaire, eh bien, ils produiront une monnaie de mauvaise qualité, et les individus se détourneront de leur monnaie pour aller vers d'autres.
et ils courent le risque de la faillite si un jour beaucoup de gens se présentent à eux et leur disent bon, on pourrait changer notre monnaie contre une autre, ils n'ont pas les moyens de faire des changements. Parce qu'il y a une garantie de convertibilité en autre chose. Hein. Si cette garantie de convertibilité est insuffisante, ils font faillite. Alors, c'est une première chose. Alors, j'ai l'impression que dans ce que vous dites, il y a aussi implicitement un autre problème qui est celui de la définition juridique de la responsabilité. Et c'est un problème important sur lequel il y a un débat possible qui n'est pas évident. Nous sommes à une époque dans une situation où il y a une responsabilité limitée. Pourquoi on a fait ça? Pour attirer des capitaux, parce que les gens sont plus prêts à investir, à acheter des actions de l'entreprise si leur responsabilité est limitée à leur rapport, non pas à leur patrimoine. Mais en même temps, c'est vrai que cela atténue la responsabilité. Le sentiment que j'ai, c'est que dans l'histoire, on a peu à peu sélectionné la responsabilité limitée parce que justement, ça permettait la croissance des entreprises. Mais finalement, bien souvent, les législations l'ont ratifié et elles ont donné une position dominante à cette situation. Là encore, le monde idéal est un monde où il y aurait concurrence entre les différentes formes juridiques et où les gens choisiraient, d'une part, d'avoir une responsabilité plus ou moins limitée en tant qu'actionnaire, ou par ailleurs, on ferait plus ou moins confiance entre nous sur la responsabilité est limitée ou pas. Mais je ne connais pas la situation optimale, là encore. Hein. Je pense que la coexistence de deux formules est probablement la meilleure solution, et ça s'applique donc au cas des banquiers. C'est vrai qu'une responsabilité limitée, illimitée, c'est un sacré frein à la prise de risque excessive.
Encore une question d'intervention, non?
Oui, non, mais sur ce sujet, je disais l'intérêt pour la deuxième fois, je ne sais pas si on a encore une question.
Il n'y a pas de bonne réponse.
Oui, on peut quand même imaginer, mais je pense que même historiquement ça devait être dit, c'est qu'à partir du moment où on permet à un banquier, même privé et même avec une responsabilité illimitée, de produire de la monnaie papier, il va tenir une discipline pendant 2-3 ans, et puis au bout d'un certain temps, il va se mettre à MSMS, et puis une fois qu'il a tout l'or, il disparaît dans la nature, et à ce moment-là, provoquer quand même une spoliation majeure de toutes ces personnes. Et du coup, on peut penser qu'éventuellement, c'est l'interdiction, dans le cadre de monnaie privée, de faire de la réserve personnelle. Enfin, il y aurait une obligation de couverture totale sur tous les billets qu'il émettrait. Et donc, en réalité, les billets de banque seraient juste une créance sur une quantité d'or que le banquier est obligé d'avoir chez lui, avec l'interdiction pour le banquier d'émettre plus de créances qu'il ne détient d'or convertible à chaque instant, mais qui suppose évidemment une intervention à ce moment-là d'un gendarme extérieur qui peut être que l'État pour s'assurer que personne n'en prend cette règle.
N'est pas, il est bien évident que les abus existent toujours, que les abus existent toujours. Le système parfait, ça n'existe pas. Et simplement, ce que je prétends, c'est qu'un système qui repose sur la responsabilité individuelle des gens fonctionne mieux qu'un système qui repose sur les responsabilités. Tout à l'heure, j'ai souligné pourquoi on peut dire qu'une monnaie monopolistique publique, elle est mauvaise parce qu'il n'y a pas de limite à la création monétaire. Alors, ce que vous dites peut arriver, mais il y a quand même, je crois, une limitation considérable qui existe, parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un système monétaire de ce type, très probablement, il fonctionnerait sous forme de cartel. C'est-à-dire que, imaginez qu'il y ait dans le monde une monnaie A, qui soit utilisée un peu partout dans le monde, et qu'elle soit émise par, je ne sais pas, 10 banques, 100 banques, je ne sais pas quel nom. Qu'est-ce qui va se passer? Chacune de ces banques émet des billets, et ces billets sont... C'est vraiment le cas, n'est-ce pas, où ça serait un étalon. Chaque banque donne une double garantie de convertibilité. Elle promet d'échanger, par exemple, un salin contre un gramme d'or, à l'achat et à la vente. La banque Bastia, puisque vous avez évoqué Bastia, promet d'échanger un Bastia contre un gramme d'or, etc. Et puis, par ailleurs, elle se donne des garanties de convertibilité mutuelle. Je promets d'accepter un Bastia contre un salin à prix fixe. Chacun valant un gramme d'or. Ça veut bien dire qu'on va surveiller, n'est-ce pas? Puisqu'il y a des garanties mutuelles, je ne vais pas prendre, sans accepter des billets émises par les autres banques de mon cartel sans surveiller ce qu'elles font. Donc, on va imaginer des règles de surveillance, des ratios, etc. Et il y a de ce point de vue-là un auto-ajustement. Mais si une banque se lance dans une expansion monétaire trop importante, et si ses opérations sont contrôlées au jour le jour, les autres vont lui dire s'arrêter, ou bien annonceront que dorénavant, elles ne reconnaissent plus la monnaie qui se passe seulement. Donc il y a un système de régulation interne qui est extrêmement puissant, hein, et qui limite les risques de surexpansion. Ça ne peut pas les limiter absolument, une fois de plus, la perfection n'existe pas. Et si on ajoute par ailleurs que le fait qu'il y ait plusieurs monnaies, A, B, C, D, etc., va faire aussi qu'on surveille ce qui se passe à l'extérieur et on repère mieux les autres, il y a quand même un système de régulation qui est en train de se faire.
Bien, mais
c'est pour ça que je défends les cartels, parce que c'est des systèmes de coordination. Un exemple typique, c'est justement le fonctionnement de système monétaire.
J'attends que vous reveniez. Est-ce que vous avez encore le temps pour une question?
Ah oui,
pour le changement de Nouvelle-Doua.
Une petite question, oui. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la banque n'est en fait qu'une étape du processus monétaire depuis que la monnaie a émergé? Est-ce qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui, grâce à l'effervescence électronique, qu'il y ait des monnaies privées qui se créent au travers de circuits.
Je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que là encore, on a une vision institutionnelle qui est un peu faussée. Une banque, c'est d'abord un intermédiaire dans le financement. Et puis, il s'est ajouté, ultérieurement, mais bien plus tard que ça, une fonction monétaire. Et on a un peu trop tendance en cette époque de considérer que nécessairement, la création monétaire et la circulation monétaire sont faites par des banques. Alors que ce sont des opérations séparées, et bien évidemment séparées également du financement. Donc je suis totalement d'accord. Et on peut très bien imaginer que la gestion monétaire, pour utiliser un terme un peu vague, soit faite par une entreprise commerciale quelconque, etc. Et c'est d'ailleurs déjà un petit peu le cas. Il y a quelques exemples de monnaies électroniques, je crois, qui existent, et qui sont totalement séparées des banques, peut-être par un indice de vente par correspondance, etc., qui donne une définition à une unité de transaction. Donc je suis parfaitement d'accord, il faut aussi abandonner cette idée qu'il y a coïncidence entre la fonction monétaire, la fonction bancaire, etc., etc. Donc c'est pas simplement la banque centrale qu'il faut mettre de côté, mais il faut libérer aussi l'imagination institutionnelle, en quelque sorte, l'imagination juridique, alors qu'il y a une définition juridique de ce qu'est une banque, de ce qu'elle doit faire, ne pas faire. Toutes ces réglementations, il faut les liquider, évidemment, c'est tout à fait important.
Bien, merci. Peut-être inviter à rester pour l'inverse, vous avez un peu de temps, en plus on peut être dans la cour, il fait beau, mais encore 11 ans.